Votre don doit être fait avant le mardi 31 décembre.
Best Fenêtre, et une, et deux, et trois agences. Après Paris 20e et les Lilas, Best Fenêtre ouvre sa nouvelle agence à Pavillon-sous-Bois avec notre partenaire Terre de Fenêtres. Pour célébrer cet événement, 25% de réduction sur toutes vos fenêtres en PVC, bois ou aluminium jusqu'au 31 décembre. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix et la garantie de bénéficier des aides de l'État grâce à notre certification RGE Calibat. Contactez Bruno au 01 43 73 36 36 ou sur bestfenêtre.fr.
Radio Shalom, la radio qui vous écoute.
La radio qui vous écoute.
Radio Shalom, il est 19h.
Radio Shalom, le journal vous est présenté par Bernard Abouaf.
Bonsoir à tous. Les sirènes ont retenti aujourd'hui sur Sderot et dans plusieurs localités israéliennes à la frontière de Gaza. 5 roquettes ont été tirées de Gaza et ont été interceptées ou sont tombées dans des terrains ouverts. Tsahal a attaqué des dépôts d'armes dans la banlieue de Damas, faisant 11 morts. Selon l'armée israélienne, les lanceurs d'où les roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza vers la région de Jérusalem ont été attaqués depuis les airs cette nuit. Le djihad islamique annonce que 3 de ses hommes ont été tués au sud du Liban. Ils appartenaient à la branche syrienne du mouvement. La chaîne Qatari Al Arabi rapporte des sources égyptiennes et elle dit qu'il existe un risque que les négociations sur un cessez-le-feu à Gaza s'effondrent en raison, affirme la chaîne Qatari, de l'entêtement israélien. Selon ce rapport, les médiateurs en Égypte et au Qatar font de gros efforts pour éviter que les négociations ne débouchent sur une impasse. 35 000 juifs ont immigré en Israël depuis les massacres du 7 octobre. Un tiers des nouveaux immigrants étaient âgés de 18 à 35 ans. Un rapport va être remis demain par Israël à l'ONU sur les témoignages des otages qui ont été libérés. On y apprend que des ados ont été forcés d'avoir des actes sexuels les uns avec les autres, selon ce rapport. Deux adolescents détenus ensemble ont été liés aux mains et aux pieds, ont été battus toute la journée. Les médecins ont trouvé des signes de liaison, des cicatrices et d'autres marques sur leur peau. Les deux ont également déclaré qu'ils étaient forcés de commettre des actes sexuels l'un avec l'autre et que leurs ravisseurs avaient accompli eux aussi des actes sexuels sur eux. Deux autres enfants avaient des signes de brûlure sur les membres inférieurs. Les femmes otages ont également subi des agressions sexuelles et l'une d'entre elles a dit avoir été attaquée par un terroriste du Hamas sous des menaces. Les rebelles ont forcé la plupart des femmes à se déshabiller pour les voir nues. Certaines jeunes femmes ont dit qu'elles avaient été touchées sexuellement. Les hommes ont subi des violences physiques plus graves. Ils étaient constamment affamés, torturés, frappés, confinés dans une pièce fermée avec très peu de nourriture et d'eau, gardés en isolement, les mains et les pieds liés, et interdit d'aller aux toilettes, donc forcés de faire leurs besoins sur place. Tout cela donc selon le rapport israélien qui sera remis aux Nations Unies. Benjamin Netanyahou a donné une interview à l'occasion des fêtes de Hanouka, la 14e chaîne de télévision israélienne. Je vous propose d'écouter un extrait.
Chag Hanouka Sameach, Adonai Rosh HaMemshela.
Chag Sameach, Monsieur le Premier ministre. Bonne fête de Hanouka. Merci d'être avec nous, merci pour cet entretien. Vous savez, hier, on a fait la bracha à l'anissim, à l'aniflaot, chez Assal et à Votinou, et je me suis dit que j'aurais jamais cru que ça serait aussi contemporain. Vous aussi, vous voyez aujourd'hui des héros et des miracles qui... Dieu fait les miracles quand nous aussi on fait en sorte que ce soit des miracles. Et je pense que oui, on a vu ça, je pense que tout le public s'en rend compte. Le monde arabe a changé. Il y avait une nouvelle puissance, l'Iran, qui avait monté tout un axe fondamentaliste pour nous détruire. Et aujourd'hui, on voit bien que la réalité est tout autre. Différentes. Et ils avaient créé ça pour nous détruire. Et aujourd'hui, on voit qu'on, pour la troisième fois dans l'histoire d'Israël, trois fois dans l'histoire d'Israël, on a totalement changé la situation du Proche-Orient à 90 degrés. On le voit vraiment. Et nous, vraiment au milieu de ça. Et on a changé le visage du Proche-Orient. Le 6 octobre, comment on était, notre situation, et regardez notre situation. Vous y avez pensé? Vous rêviez de ça? Mais j'ai pas seulement imaginé ça, je l'ai dit. J'ai dit, on va changer le Proche-Orient. Alors, vous parlez de l'axe iranien, mais je suis obligé de vous dire le Yémen. Encore la semaine dernière, on a vu qu'on a reçu des missiles du Yémen. Alors, comme dit le peuple, de manière un peu populaire, pourquoi on finit pas le boulot? Encore une semaine, on a été attaqué. Mais qui vous a dit qu'on est en train de finir? On est juste au début. On va pas leur permettre. Bayamima ele, Asmanaze. Ces jours-là et maintenant, on va les attaquer avec une puissance incroyable. Je vous l'ai dit. Je veux dire, le Hamas a appris, le Hezbollah a appris, ils ont appris en Syrie. Alors vous allez rechercher, bon, je veux bien que vous n'allez pas nous donner les détails, mais vous allez attaquer les dirigeants outils. Il y a beaucoup de choses qui sont concrètes, qui sont mises en place. Le mieux, c'est de parler peu. Mais on va mettre une fin à cette menace. Ils sont... On a même attaqué le Yémen, on a même attaqué leur capitale. 35 000 juifs ont fait leur alia, l'immigration en Israël, depuis les massacres du 7 octobre. Selon les chiffres qui ont été publiés par l'agence juive, sur ces 35 000 personnes originaires d'une centaine de pays différents, 31 000 ont immigré en Israël au cours de l'année 2024. Un tiers de ces immigrants étaient âgés de 18 à 35 ans. Le Centre mondial de la Alia de l'agence juive à Jérusalem a enregistré une augmentation massive de l'ouverture de dossiers d'Alia dans les pays occidentaux. L'organisation Massa a elle aussi fait venir des milliers de jeunes juifs en Israël malgré la guerre. L'agence juive s'est également efforcée de mobiliser les juifs de diaspora pour qu'ils aident Israël. Et selon les chiffres qui ont été publiés, 11 000 familles touchées par le terrorisme en Israël ont reçu des dons, des aides d'urgence et des aides à la reconstruction de la part de juifs de la diaspora. Les dons sont arrivés à une somme de 20 millions d'euros, 20,8 millions d'euros pour être parfaitement précis. Dans une annonce qui marque un tournant majeur pour la Syrie, Abu Mohammad al-Jolani, qui est le leader de l'organisation Hayat Tahrir el-Shaha, a déclaré son intention de dissoudre son groupe armé. Cette décision s'inscrit dans une transformation qui est spectaculaire, transformation du personnage et aussi transformation donc de la Syrie, si évidemment le mouvement se poursuit. Le journal libanais Anar rapporte que le chef du groupe Hezbollah au Parlement européen, Mohamed Raed, a été nommé adjoint du secrétaire général du Hezbollah, donc de Naïm Qassem. Les Houthis au Yémen ont procédé à des arrestations dans les provinces de Saada, Sanaa et Houdaïa. Elles craignent qu'une pénétration israélienne ait été effectuée pour toucher ses leaders. Les responsables Houthis craignent d'être blessés ou tués, comme ce fut le cas pour les responsables du Hezbollah. Les détenus sont accusés d'avoir tenté d'obtenir des informations sur la localisation du chef des Houthis, Abdelmalek Badr al-Din al-Houthi, ainsi que sur celle d'autres chefs militaires. Le gouvernement israélien a conclu un accord historique avec la compagnie El Al. Cette initiative vise à plafonner les tarifs aériens vers plusieurs destinations clés à partir des mois de janvier et février. Parmi les destinations concernées, Athènes devient accessible pour 299 $ aller-retour, tandis que Vienne, Francfort et Dubaï sont proposés à 349 $. Ces villes ont été choisies pour servir d'escale, permettant aux voyageurs israéliens d'accéder à un réseau plus large de destinations internationales.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Ça va toi?
Ouais.
Tu pars quand?
Je reste à Paris, mais...
tu restes à Paris.
Je finis demain soir, je reviendrai dimanche.
Je croyais que tu faisais des vacances.
Quelques heures. Pardon ?
Je croyais que tu faisais des vacances.
Non, mais je suis en vacances, c'est sûr. On fait pas d'émission la semaine prochaine, mais je suis à Paris.
Mais tu pars pas, d'accord. Moi, j'arrive la semaine d'après.
Eh bien, très bien. Je réserve une table.
J'espère bien.
Avec plaisir. On est allé au Geffen hier, le restaurant qui est en face de la radio. Il dit qu'il est tout cachère, mais qu'il n'arrive pas à avoir du hashgacha. Mm-hmm. Parce qu'il lui met des bâtons dans les roues. Et lui, il fait vraiment de la haute cuisine, tu vois. Donc là, par exemple, il cherche du lait chamour écaillé. On va trouver un truc pareil.
Ouais. Bonne chance.
Ouais, bonne chance. Mais lui, dans son monde à lui, voilà, c'est ça et c'est pas autre chose. Mm-hmm. On y va ?
On y va.
Allez. Donc notre histoire, mais elle passe par un chemin bien particulier, elle passe par nos tables, par ce qui se passe dans nos assiettes. Catherine est à Jérusalem et est en ligne avec nous. Bonsoir Catherine Garçon.
Bonsoir.
Alors, cette semaine, vous allez nous parler des latkes et encore d'autres galettes, puisque on est toujours pendant Hanouka et que c'est le moment de manger ce plat typiquement ashkénaze. Et il y a aussi des équivalents séfarades.
Voilà, on va d'abord remonter dans le temps, plusieurs siècles avant les Maccabim, que les Maccabim donc affrontent les Grecs avec toute l'histoire de Hanouka. Le général assyrien Holoferne met le siège devant la ville de Betulia en Eretz-Israël. Une belle veuve, dénommée Yehudit, s'engage à sauver sa ville assiégée. Elle se rend dans le camp ennemi et séduit Holoferne, qu'elle enivre lors d'un festin fait de fromage salé et de vin. Le soldat s'endort et Yehudit le décapite avec son épée, assurant ainsi la victoire des Israélites. Or, selon une tradition orale au Moyen-Âge, la même Yehudit aurait eu des liens familiaux, en tant qu'ancêtre bien sûr, avec Yehuda Maccabi. Ce qui explique peut-être pourquoi dans son commentaire sur le Talmud, le Rashbam, c'est-à-dire Rabbi Shmuel Ben Meir, le petit-fils de Rashi et l'un des principaux tosafistes, écrit que de la même manière qu'Esther est la principale actrice du miracle de Pourim, il en va de même pour Yehudit pour celui de Hanouka. Ce qui explique la tradition, à peu près abandonnée de nos jours, de raconter l'histoire de Judith et Holoferne, de Yehudit et Holoferne, le Shabbat de Hanouka, et de manger en partie des mets lactés.
Alors, excuse-moi.
Ouais.
Excuse-moi. Je répondais à quelqu'un. Un, deux. Mais où sont les latkes dans cette histoire ?
Alors on y vient. La première référence juive à nos crêpes, galettes, frites, servies à Hanouka, se trouve dans un poème écrit en 1322 par Rav Kalonymus ben Kalonymus, un rabbin provençal. Il est né à Arles, philosophe et traducteur, où il parle de grandes crêpes rondes de taille de la poêle consommées pour la fête. Quelques décennies plus tard, une version du livre de Yehudit, copiée en 1402, toujours en Provence, alors il faut dire que ce livre de Yehudit est ce qu'on appelle un apocryphe, c'est-à-dire qu'il n'est pas rentré dans le canon biblique, dit que Yehudit et Holoferne avaient fait frire des galettes ou crêpes au fromage, alors je cite ce manuscrit, elle dit à sa fervente, prépare-moi deux crêpes, elle sala fortement les crêpes, puis les mélangea dans un pot avec du fromage, Yehudit apporta ensuite les galettes salées dans la chambre d'Holoferne. Ces galettes crêpes au fromage connurent une très grande popularité dans les communautés d'Europe de l'Ouest, voire même en Europe centrale. En Italie, ce seraient les Juifs de Sicile, fuyant la domination espagnole et les tribunaux de l'Inquisition, qui lui étaient liés, qui auraient transporté la recette jusqu'à Rome, puis vers le nord de l'Italie. Rome, où elle est toujours connue sous le nom de cassola, et elle est préparée à base de ricotta. C'est de là, selon certains, que ces galettes lactées seraient parties vers l'Europe centrale. Mais si l'huile d'olive ou le beurre sont couramment utilisés dans toutes ces communautés, il n'en va pas de même pour l'Europe de l'Est. Là, les graisses de cuisson sont d'origine animale, les Juifs utilisant du schmalz, à savoir de la graisse fondue de poulet ou d'oie. Donc il est impossible pour des graissons de cacheroute de mélanger avec du lait ou avec du fromage. Du coup, les ancêtres de nos latkes sont faits à base de sarrasin, de seigle, voire même de navet. La friture de nos galettes est aussi favorisée par le fait que traditionnellement, c'est pendant l'hiver qu'est confectionné le schmalz, soit dans la période de Hanouka.
Alors de quand datent les latkes telles qu'on les connaît nous ?
Alors en Europe, il faut bien entendu attendre que la pomme de terre, venue d'Amérique du Sud, non seulement soit importée, mais aussi acceptée par les populations locales qui s'en méfient. En France, par exemple, on va revoir l'histoire de France de notre enfance. On se souvient comment, selon la légende plus ou moins, Parmentier ne réussissant pas à convaincre le peuple de consommer des pommes de terre, il aurait utilisé un stratagème pour vaincre ses résistances. Il a fait garder le champ de la plaine des Sablons par des hommes en armes le jour, mais pas la nuit. Les gardes du champ augmentent la valeur de la culture aux yeux des Parisiens, qui en profitent donc pour la nuit voler les tubercules, dont la consommation se serait alors répandue dans l'Hexagone. En Europe de l'Est, l'adoption par tous de la pomme de terre, on en consommait déjà avant, mais de manière plus modérée, est liée aux mauvaises récoltes de céréales en Ukraine et en Pologne dans les années 1839 et 1840. Pour éviter la famine, des grandes quantités de pommes de terre sont alors plantées. Elles deviennent vite une denrée de base, les pommes de terre ne sont pas chères, denrée qui va servir entre autres à la confection des lacs-caisses tels que nous les connaissons aujourd'hui. À savoir des galettes de pommes de terre frites dans l'huile confectionnées selon les traditions, à base de pommes de terre râpées ou de purée. À noter à ce propos qu'en Europe de l'Ouest, les Allemands avaient été les premiers à adopter les pommes de terre et donc à faire ces galettes à base de légumes râpés. Galettes qui devinrent très populaires et qui ont probablement servi d'inspiration pour la confection de nos lacs-caisses. Bien entendu, lorsque les Juifs d'Europe de l'Est émigrent vers l'Ouest et en Amérique, ils emmènent avec eux les lacs-caisses. Ceux-ci resteront en ces lieux l'un des mets de référence de Hanouka, voire le principal, concurrencé seulement par les beignets dont nous avons déjà parlé. À noter en passant que l'origine du mot lacs-caisses est à chercher du côté du slave, Olotka, qui signifie petite crêpe frite, ce mot ayant une racine grecque, Eladion, qui signifie huile d'olive, une référence tout à fait appropriée pour Hanouka, puisque toute cette friture nous renvoie au miracle de la petite fiole d'huile dans le temple de Jérusalem.
Alors, il n'y a pas de latkes séfarade, mais il y a des équivalents.
Tout à fait. Pour les galettes version lactée, celles dont j'ai parlé avant l'introduction de la pomme de terre, en 1618, le Rav Menachem Lomzano, qui est un érudit italien qui vit et à Jérusalem et à Constantinople, mentionne les crêpes au fromage comme plat de Hanouka, y compris dans les communautés séfarades. Avec l'adoption des pommes de terre, qui sera plus aisée dans les divers pays arabes et l'Empire turc qu'en Occident, les galettes frites à base de ce tubercule se retrouvent un peu partout et sont aussi, mais pas exclusivement, consommées à Hanouka. Alors on va donner quelques exemples. En Irak, on mange des galettes à base de pommes de terre cuites et d'oignons qui sont parfois préalablement frits. En Iran, il existe, une préparation qui lui ressemble, nommée elle, alors je m'excuse parce que je ne suis pas une spécialiste du perse, Koukousib Zamani. Là aussi, les pommes de terre sont cuites avant d'être râpées et cette version perse requiert nettement plus d'œufs que son homologue ashkénaze. Enfin, en Syrie, et ce tour d'horizon est loin d'être complet, on utilise, comme pour les latkes, de la même pomme de terre crue, râpée et de l'oignon. Cette préparation s'en distingue néanmoins par l'emploi des épices locales et du célèbre poivre d'Alep et le fait qu'elle est souvent mangée dans une pita. Que le latkes est souvent mangé dans une pita accompagnée de divers légumes et des autres condiments.
Chaque semaine, Catherine Garçon sur Radio Shalom, vous nous racontez notre histoire en prenant un chemin bien particulier. Vous passez par nos tables, par ce qui se passe dans nos assiettes. Et ce soir, Hanouka oblige, on a appris l'histoire des latkes. Bonsoir à vous Catherine et bon appétit.
Merci, vous aussi.
Voilà, cette édition est à présent terminée. Vous retrouvez Torah et Société, une émission qui vous est proposée par Pierre Gandus avec le grand rabbin Gilles Bernheim.
Retrouvez Radio Shalom sur radioshalom.fr. Radioshalom.fr.
Looking at body looking make me really feel now.
I got a nasty, nasty style and a nasty, nasty crew. For everything I do just for you. I'm a little bit to all and a bigger bit to know. The true people know that the peace come through and never cease. We never die, no, we never deceive. We multiply like we mass Matisse. And then drop bombs cause we're shaking to the beat.
The bomb bombers, the bass boom drummers.
Now y'all know who we are. Y'all know we the stars. Steady rocking all of y'all's boulevards. And looking hard without bodyguards.
I do what I can.
Die for you. Here I am. And still I stand with still mic in hand.
So come on, mama.
Hey.
Let's hit the drummer.
Hey, mama.
Looking at me really feel naughty.
Cutie, cutie, make sure you move your booty. Shake that thing in the city of sin.
Don't fake it, I know you see me shaking. And the way I break it down, I got the whole earth quaking. Off the Richter, off the Richter. Off the Richter, off the Richter. Off the Richter, off the Richter.
Steady, are you ready?
Radio Shalom, la radio qui vous écoute.
La radio qui vous écoute.
Orte France est un réseau d'écoles présent à Lyon, Marseille, Montreuil, Paris, Strasbourg, Toulouse et Villiers-le-Bel. Plus de 40 formations diplômantes dans les domaines du tertiaire, du paramédical, du digital, de l'énergie et de la mode. Orte France promet un enseignement de qualité du collège au bac plus 5 en initiale ou en alternance depuis plus de 100 ans, permettant à 86% de nos étudiants d'obtenir leur diplôme en 2022. Orte France, c'est aussi un réseau d'entreprises partenaires dynamiques qui accompagnent nos jeunes dans leur démarche. Marge de stage et d'emploi. Faites le choix de la réussite. Choisissez Orte France.
Il y a des salles de bain qui font vraiment rêver.
Bain et déco.
Il y a des cuisines où l'on se prendrait volontiers pour un chef étoilé.
Bain et déco.
Et si c'était le moment de changer? Nos architectes et artisans qualifiés Bain et déco conçoivent et réalisent votre projet de A à Z. Des produits avant-gardistes, des marques prestigieuses et un vrai savoir-faire. Pour une seule ambition, l'exception.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 mètres carrés à Paris 11e et Boulogne-Billancourt. Et venez découvrir notre nouveau showroom, 212 boulevard Saint-Germain, Paris 7e.
Baindeco.fr.
Pourquoi on allume des bougies à Hanouka, papy ?
Les bougies symbolisent la lumière, mon petit. Mais cette année, il faut aussi penser à ceux qui sont dans l'obscurité.
Ceux qui n'ont rien ?
Exactement. L'OSE aide les enfants et les familles dans le besoin à célébrer Hanouka.
On peut aider aussi ?
Oui, en faisant un don. Chaque petit geste peut illuminer le cœur de quelqu'un.
Pour donner à l'OSE, rendez-vous sur ose-france.org ou faites un chèque à l'OSE, 117 rue du Faubourg du Temple, 75 010 Paris. Vous êtes sur Radio Shalom.
Torah et Société poursuit avec le grand rabbin Gilles Bernheim les différentes études de la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous allons nous pencher sur la paracha Vaïgash. Il rencontrera Gilles Bernheim. Bonsoir.
Bonsoir.
La paracha Vaïgash évoque le récit de la plaidoirie finale de Yehuda envers le ministre de Pharaon qui est Joseph, le dévoilement de Joseph à ses frères et la venue de Jacob et de tous les siens en Égypte pour y vivre auprès de Joseph et la liste de tous les membres de cette famille. Rashi reprend ce passage, une parole dans l'oreille de mon Seigneur et il commente qu'elles entrent mes paroles dans tes oreilles et Rashi reprend là en compte le Bereshit Rabba du Talmud, celui-ci démontre qu'on ne peut pas lire qu'ils ont parlé à voix basse à l'oreille puisqu'ils utilisaient un interprète et d'autres justifient aussi cela en disant qu'on ne peut pas parler à l'oreille d'un prince. Et Rashi fait comprendre, en fait il va beaucoup plus loin que le sens littéral portant sur l'intensité de la voix. Yehuda aurait pu dire simplement « permets-moi de dire ou que je fasse entendre ou que je me présente ou que je présente une parole aux oreilles de mon maître » mais une parole dans les oreilles indique que Yehuda demande
que son message ne soit pas seulement entendu, ne soit pas seulement compris, mais qu'il entre véritablement à l'intérieur de l'oreille et qu'il pénètre l'intérieur de l'auditeur.
Cet enseignement de Rashi est important à mes yeux. Il suggère que cette parole doit aller au fond de l'oreille, c'est-à-dire doit remonter très loin dans, je ne dis pas dans la mémoire, mais dans l'attention de celui auquel il parle. Est-ce que Yehuda, et c'est ce que certains commentaires sur Rashi nous enseignent, est-ce que Yehuda, la question n'est pas de savoir si Yehuda, maintenant, est en train de se repentir de ce qui s'est passé aux origines et qui a provoqué l'éloignement puis l'esclavage de Joseph en Égypte. Il est probable que Yehuda maintenant est en train de vivre un moment essentiel pour lui, un moment important, à savoir que, étant en position d'infériorité, étant par ailleurs confronté au problème de la famine en terre d'Israël, étant descendu en Égypte principalement pour pouvoir se nourrir et nourrir les siens, et nourrir ses frères, et nourrir son père, est-ce qu'il n'a pas une intuition, est-elle consciente ou non consciente, je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas l'impression ou l'intuition que quelque chose est en train de se jouer qui va faire remonter un passé qui était enfoui et peut-être l'éclairer ce passé, peut-être lui donner sens. Aucun commentaire ne dira, et je termine sur ce point-là, aucun commentaire ne dira « Oui, il savait que, il a pensé, il lui est revenu à l'esprit ce qui s'était passé des années auparavant, et maintenant il veut régler ce problème et demander pardon. » Je ne le pense pas. Par contre, parce que je ne l'ai pas lu dans des commentaires sur Rashi. Par contre, on peut ressentir quelque chose qui vous donne à penser qu'il se joue quelque chose de très ancien ici, qui n'a jamais été réglé, sans savoir pour autant quoi, sous quelle forme et en vue de quoi.
Alors justement, on va rester avec Yehuda, qui se situe d'emblée dans la rencontre. C'est le mot, hein, vaïgash, et dans l'égalité. En effet, le verbe vaïgash ne veut pas dire seulement il s'avança, mais il rencontra. Yehuda se place dans cette position, et cela est confirmé par l'évolution de la relation. Les versets suivants sont ponctués continuellement par l'expression vers, vers toi, vers moi. Et nous découvrons par là que les deux partenaires ne se contente pas seulement d'écouter ni de bien comprendre le contenu du message, mais ils font de la communication d'un message l'occasion de s'inviter l'un l'autre à se rencontrer davantage.
En tout cas, cette rencontre est loin d'être simplement, je dirais, une convention diplomatique. L'un ayant besoin de l'autre, l'autre jugeant l'un pour savoir s'il est digne de recevoir ce que lui peut lui apporter. Ça, c'est ce qu'on appelle une convention diplomatique, de manière à éviter les refus et les fâcheries. Il y a quelque chose de profond ici, qui est d'autant plus profond que cela n'existait pas du temps où Yosef et Yehuda vivaient ensemble, à proximité du père. Il a fallu beaucoup d'épreuves, et pour Yosef, et pour Yehuda, et pour ses frères, et pour le père, pour que les deux parties se rapprochent. Mais pas simplement se rapprocher factuellement, se rapprocher aussi, j'allais presque dire, psychologiquement, dans leur ressenti profond. Qu'est-ce qui provoque ce rapprochement ? Hormis des faits dont Yosef est le maître, d'un côté, et la famine qui les oblige à descendre en Égypte, de l'autre, qu'est-ce qui les rapproche profondément ici ? Encore une fois, je ne le sais pas parce que le texte ne le dit pas. mais il est possible qu'il y ait une part, non pas de hasard, non pas du divin, une part divine, mais je dirais une part très enfouie, une part inconsciente chez Yehuda et chez Yosef également. Mais c'est plus intéressant de le comprendre chez Yehuda parce que Yosef est maître de la société, il sait des choses que l'autre ne sait pas.
Vous savez que d'une certaine façon, ça me fait penser au Shabbat entre le monde privé et le monde public, ce qu'on peut donner, ce qu'on peut sortir et ce qu'on peut rentrer. On est un peu dans cette idée-là.
Oui, j'avais une référence beaucoup plus triviale que la vôtre à proposer. Cette rencontre au début de Vaïgash, je la trouve très thérapeutique entre les deux frères. C'est-à-dire que dans le rôle du patient, c'est Yehuda. Et Yehuda est troublé, il ressent des choses. Mais jusqu'à pouvoir les mettre en mots, les verbaliser, exprimer ou exposer devant l'autre ce qui lui arrive, il va falloir du temps. Mais il sent qu'il est sur une voie déterminante. Je me contenterai de le dire ainsi. En tous les cas, la littéralité du texte, les finesses que vous releviez tout à l'heure dans l'écriture de ces premiers versets le suggèrent fortement.
On va marquer une pause dans cette émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Nous évoquons ce soir la paracha Vaïgash.
Vous êtes sur Radio Shalom. Depuis le 7 octobre, 6000 étudiantes et étudiants de l'Université de Tel Aviv ont été rappelés dans des unités combattantes et se battent sur tous les fronts. Certains sont hélas tombés au combat ou sont blessés. 3000 d'entre eux ont repris le chemin de l'université. 3000 restent mobilisés. Nous, les amis français de l'Université de Tel Aviv, avons mis en place un fonds d'urgence pour les soutenir. Ce fonds finance des bourses d'études et des soutiens psychologiques avec notre faculté spécialisée dans le post-trauma. Soutenez les étudiantes et les étudiants combattants de l'Université de Tel Aviv en donnant en ligne sur allo-don, association française de l'Université Tel Aviv, et vous recevrez un reçu CERFA. Attention, événement! L'association Choisir l'école juive présente la 6e édition du Salon des écoles juives. Dimanche 19 janvier, préparez sereinement la prochaine rentrée scolaire. Pendant une journée, les représentants de toutes les écoles juives de France et filières post-bac vous accueilleront sur leur stand à l'hôtel du collectionneur. Venez échanger avec les équipes pédagogiques, bénéficier d'un entretien individuel d'orientation offert et découvrir les programmes d'études en Israël et à l'international. Le Salon des écoles juives, dimanche 19 janvier dès 10h, dans les salons de l'hôtel du collectionneur Paris 8e. Entrée gratuite, animation enfant toute la journée. Restauration cachère et services de sécurité sur place. Alors, venez nombreux! Hanouka, c'est un moment de partage, de lumière et de solidarité.
Mais malheureusement, certains ont du mal à célébrer cette fête.
C'est pourquoi l'OSE est là, pour apporter de l'aide et de la joie à ceux qui en ont besoin.
Un petit don peut faire toute la différence.
C'est un cadeau précieux pour eux, comme pour nous. Faites un don pour Hanouka à l'OSE et offrez de la lumière. Pour donner à l'OSE, rendez-vous sur ose-france.org ou faites un chèque à l'OSE, 117 rue du Faubourg du Temple, 75010 Paris.
Vous êtes sur Radio Shalom.
Radio Shalom.
Retour à l'émission Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Torah et Société, c'est tous les dimanches, 19h30, 20h, sur Radio Shalom. Nous évoquons la paracha Vaïgash. Alors, autre sujet d'importance dans cette paracha, eh bien ce sujet nous est donné par Rabbi Nathan. Joseph a dit à ses frères, « Vous raconterez à mon père tout mon honneur. » Il a précisément dit « mon honneur » car il voulait que son père sache qu'il avait réussi à élever l'honneur de la sainteté en Égypte et par conséquent, il rajouta « Dépêchez-vous et descendez mon père ici pour lui faire savoir qu'il ne doit plus craindre que l'impureté de l'Égypte ait une influence sur sa famille car il avait extirpé le kavod de son exil et donc le peuple d'Israël réussirait à se maintenir en tant que juif, même en exil, jusqu'à ce qu'il réussisse à en sortir et à élever le kavod de la sainteté, car l'essence de l'exil réside dans le fait que l'honneur de la sainteté soit tombé chez les nations. Le kavod, c'est plus que l'honneur, c'est de l'existence, de la présence, dit Rabbi Nathan.
J'ai lu beaucoup de commentaires sur cette expression, sur ce mot kavod ici, dans les avot de Rabbi Nathan, des commentaires sur les avot de Rabbi Nathan, des commentaires de la Gemara. Vous savez, Yosef avait des rêves de grandeur, de supériorité, nous l'avons souvent dit. Il s'honore lui-même devant ses frères et devant son père. Il se montre, je dirais, peut-être encore plus intelligent et plus beau qu'il n'est. Il s'honore lui-même. Maintenant, lorsque le père l'envoie prendre des nouvelles de ses frères et des troupeaux de ses frères, Jacob honore son fils et s'honore lui-même. Il honore son fils en ne le méprisant pas, en ne le haïssant pas, en ne le criant pas dessus, mais en le chargeant de mission. C'est-à-dire qu'il le prend très au sérieux. Tu te vis comme supérieur aux autres, il va falloir que tu le prouves. Et si tu le prouves, tu seras formidable. Éprouver, nous l'avons expliqué la semaine dernière, c'est nourrir tes frères et leurs troupeaux s'ils manquent à manger. Et pas simplement dire des mots, mais faire des choses. Changer la réalité lorsqu'elle est défavorable pour tes frères, autrement dit les aider. Principe de responsabilité. L'honneur de Yosef est en jeu dans cette épreuve qui peut finalement l'honorer au plus haut, c'est ce qui va lui arriver, honorer sa capacité donc à s'affirmer tel qu'il est, c'est-à-dire plus à même d'aider les autres et donc de leur être supérieur que ne le sont ces derniers, il y arrivera lentement, péniblement, mais il y arrivera. Et sans doute est-ce aussi la raison pour laquelle il a mis si longtemps à se révéler et à ses frères et au père. Parce qu'il fallait qu'il se retrouve avec ses frères dans une situation où la méprise du début et où ses faiblesses du début soient complètement... La méprise de ses frères et ses faiblesses à lui, Yosef, soient totalement effacées. Autrement dit, qu'ils le reconnaissent, non pas pour sa vanité, c'est-à-dire non pas pour sa vantardise, mais parce que ce qu'il avait rêvé se réalise. Mm-hmm. Autrement dit, ses frères s'inclinent devant cette intelligence qui sait nourrir l'Égypte et nourrir ses frères et le père. Et quand vous disiez tout à l'heure... L'honneur, le kavod, est distribué par Dieu auprès des nations. Ici, Dieu le fait par l'intermédiaire de Yosef. Mais son nom est caché. Le nom n'apparaît pratiquement pas dans les textes où il est question de Yosef. C'est-à-dire que, il est très en retrait. Il n'intervient plus. Il n'y a pas de révélation pour déclarer la mission. Yosef doit y arriver par sa propre, disons, par sa bonne compréhension des rêves et par son intelligence à même de mettre ses rêves à l'épreuve du réel et donc de se concrétiser véritablement en situation. Mmh. Et effectivement, Yosef honore l'Égypte puisqu'il l'honore, il la respecte. Il n'a jamais cherché à changer les comportements des Égyptiens, j'allais dire, il n'a jamais cherché à les attirer à quelque religion que ce soit. Il fait de l'Égypte une terre qui désormais peut nourrir ses habitants alors qu'elle risquait de devenir une terre de famine. En ce sens, il honore l'Égypte. Il permet, et l'Égypte va lui en être reconnaissant, c'est-à-dire va être bienveillant à l'égard de Yosef et de sa famille. C'est ce que l'on appelle permettre à l'étranger, qu'est l'Égypte, d'advenir à elle-même, c'est-à-dire d'être une vraie réussite. Non seulement elle nourrit les gens, mais en plus elle est bienveillante à l'égard de ceux qui l'aident. Et est ici bienveillante à l'égard de la maison d'Israël. elle va rendre possible en un premier temps une élévation de cette histoire jusqu'à pouvoir devenir un peuple en Égypte, en tous les cas en nombre. Voilà les divers usages, donc tout le monde est honoré. Yosef, ses frères, l'Égypte et le père. C'est ce qu'on appelle un kavod à l'échelle la plus collective qui soit.
Alors, après une longue attente et après beaucoup de souffrances, Joseph voit enfin, et vous l'évoquiez, hein, se réaliser les rêves qu'il avait faits dans la maison paternelle. Cette fraternité retrouvée, il en a été le témoin ému quand il a entendu avec quelle flamme Yehuda a plaidé devant lui la cause de Benjamin et s'est même proposé de prendre sa place. Mais il a surtout senti le remords qui brûlait le cœur de ses frères. Et c'est cet ensemble de faits qui l'a fait éclater en larmes. Et sur cette idée d'unité retrouvée, Manitou, le rave Léon Ashkenazi, précise « Pour que l'ensemble de l'identité d'Israël soit présente dans l'histoire, il faut qu'il y ait 13 tribus d'Israël. » C'est rattaché au fait que la valeur numérique de Echad de 1, c'est 13. Et dans la paracha précédente, lorsque les enfants de Jacob s'identifient devant Joseph, la première fois, ils disent « Nous sommes 12 enfants du même père et un a disparu. Si vous enlevez un des 13, il n'en reste que 12. Le 1 a disparu. S'il en manque un, l'unité n'est pas là. » Et nous avons été habitués à faire valoir cette identité juive de diaspora. Après l'émancipation, cette identité a été définie comme une confession religieuse. Même lorsqu'on n'y participe pas, l'identité du juif religieux est vouée à la vocation du Lévi, ajoute Manitou.
Oui, l'enseignement de Manitou est à la fois complexe et riche. Je n'arrive pas bien à la ramasser. J'entends plusieurs choses dans cet enseignement et je n'arrive pas très bien à les ramasser en une seule phrase ou en un seul développement. Il se joue quelque chose de très important ici. D'abord, pour reprendre le tout premier propos que vous avez tenu, Yehuda est très attaché à Binyamin, Benjamin. Et lorsque Yosef lui demande de laisser Benjamin en Égypte, Yehuda ne peut que ressentir très fortement ce qu'il n'avait pas ressenti à l'époque, puisqu'il en était la cause, mais ce que son père a pu ressentir, à savoir que l'un de ses deux fils issus de Rachel est considéré comme mort, abandonné, perdu. Perdu, abandonné, perdu, mort, quelle que soit l'interprétation que l'on donne, c'est probablement. Toutes ces pensées ont traversé Yaakov. Et elles le retraverseraient maintenant si Binyamin était retenu en otage. Parce que ça réveillerait de très douloureux souvenirs dans l'esprit de Yaakov et il ne s'en remettrait pas. Yaakov a perdu un enfant, perdre ses deux enfants. Issu de Rachel, le tuera. Il ne lui restera plus rien. Et il n'est pas non plus inutile de rappeler ce que nous disions la semaine dernière, je crois, à savoir que lorsque Yaakov envoie Yosef prendre des nouvelles de ses frères et de leurs troupeaux, il le fait parce que ce n'est pas Rachel qui le lui avait demandé de son vivant. Mais cela correspond en fait à une mise à l'épreuve de Yosef, à savoir qu'il ne suffit pas d'être sûr de soi, parce que l'on est monothéiste, que l'on n'a plus d'idoles, ou que l'on a lutté contre les idoles, ou contre l'idolâtrie, pour être libéré de responsabilités nouvelles. C'est l'épisode des pénates. Elle n'a pas supporté que Yaakov dise condamne à mort, en quelque sorte par des mots, la personne qui aurait pris les pénates. C'est pas imaginable pour Yaakov qu'on emporte des idoles. Mais en fait, si elle emporte avec elle des idoles, c'est qu'elle ne veut pas que son mari oublie de lutter contre les idolâtries du futur. Parce que lorsqu'on a réussi sur le passé, on est tenté d'abandonner sur le présent et le futur, c'est-à-dire de considérer que ça y est, c'est gagné. et l'idole, l'idolâtrie n'entre plus chez nous. Sauf que les idoles changent de visage, changent de forme, changent de langage. Ça, nous le savons bien. Et donc, elle ne voulait pas de sentiment de complaisance et de supériorité chez son mari. Et c'est probablement ce que Yaakov reproche également à son fils Yosef. Donc il le met à l'épreuve pour qu'il ne se comporte pas comme lui, Yaakov, s'était comporté devant Rachel. Ce qui permet de boucler la boucle. C'est-à-dire que il y a là une, je dirais, une mise en exergue de ce que sont les idoles ou les idolâtries anciennes, présentes, donc modernes, à venir. Et elles sont, ces idolâtries sont très changeantes. Leur visage, leur forme n'est jamais la même. Et c'est très difficile d'être un bon juif tant que l'on ne prend pas pour mission première la destruction des idoles en tout lieu et en tout temps. C'est ce que Yaakov exige de Yosef, et c'est aussi maintenant ce que Yosef va exiger de ses frères dans cette rencontre qui réussit à la fin de Vaïgash. Et donc la maison de Jacob, désormais, est une maison qui est composée de fils et de tribus qui sont complémentaires les unes aux autres, sans que l'une des tribus se mette en avant, veuille instaurer une hiérarchie où le sentiment de supériorité et de complaisance prendrait le dessus. Finalement, aussi bien Yosef que Yaakov, l'un comme l'autre, sortent plus lucides de ce qu'ils devront faire désormais ensemble, Yehuda et Yosef, bien évidemment, pas seulement Yehuda, Yosef aussi a changé. Et c'est ça qui est impressionnant dans cette parasha de Vayigash.
Un dernier mot, on va rester avec Léon Ashkenazi, Manitou. La génération de notre temps, dit Manitou, a mis fin à l'histoire de la diaspora qui devenait de plus en plus l'histoire de Joseph en Égypte, soit se mettre au service de l'humanité extérieure contemporaine, tentative qui mène à la perte de l'identité d'Israël. Cette génération de notre temps reproduit le schéma d'identité de Rachel, la matriarche et la matrice des engendrements dans l'Église, qui disparaît au moment de la fin de l'exil, mais qui engendre Benjamin, qu'elle a conçu dans l'Égypte, dans la plus grande douleur, et c'est l'enfant de la plus grande force, Ben Oni, a les deux sens, qui conduit à la fin des temps de l'exil. Je crois, dit Manitou, qu'il s'agit très clairement de la génération des fondateurs de l'État d'Israël qui sont sortis de la plus grande catastrophe de la mort de Rachel, autrement dit la Shoah, et qui ont fondé dans la plus grande force l'État d'Israël.
Écoutez, je lui laisse la responsabilité de cette construction de la pensée. Rachel, c'est la Shoah. Je ne dis pas que ce n'est pas hautement suggestif. Je serais un petit peu, non pas réticent, mais plus prudent, c'est-à-dire plus vigilant dans le choix des équations. Rachel, c'est la Shoah, c'est trop rapide pour moi, mais seulement pour moi, ce qui ne prouve pas que ce soit faux, simplement j'ai du mal à adhérer à cette équation très rapide. Ceci étant, il est un fait qu'être juif, étymologiquement, c'est être un judéen. Et être un judéen, c'est un descendant de Juda. Quelles que soient les raisons historiques, quelles que soient les raisons politiques, quelles que soient les raisons bibliques, c'est un fait. Nous ne sommes pas issus du nom de Yosef. Nous sommes issus du nom de Yehuda. J'ai dit bien du nom. Je n'ai pas dit que nul n'est descendant de Yosef et que tout le monde est descendant de Yehuda. Non, pas du tout. Mais le nom qui nous est donné, c'est un nom qui est issu, qui découle d'une déclinaison du mot Yehuda en judéen et en juif. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est d'autant plus important que dans toute cette dernière partie du livre de Bereshit, c'est Yosef qui apparaît comme le personnage principal. Et pourtant, nous reprenons à notre compte l'histoire de Yehuda, au point que, je crois que nous l'avons dit dimanche dernier, au point que le messianisme de Joseph annonce le messianisme de Judas et non pas l'inverse. Mmh. C'est donc bien autour du Messie, fils de David, que l'histoire, et donc de Yehuda, que descend notre histoire, que résulte notre histoire.
Gilles Bernheim, je vous remercie. Ainsi s'achève ce nouvel épisode de Torah et Société avec le grand rabbin Gilles Bernheim. Et bien évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
Que ce soit pour votre mutuelle santé, votre auto, votre assurance commerce, votre assurance professionnelle, votre décennale ou tout simplement pour votre habitation, l'assurance comparateur depuis plus de 19 ans vous propose les meilleurs contrats adaptés à votre situation et en plus aux meilleurs tarifs. Sans perdre de temps sur des sites internet à chercher le moins cher, appelez-nous tout simplement et nous trouverons pour vous la meilleure offre. Vous nous téléphonez au 01 46 59 22 28 01 46 59 22 28. Toutes nos adresses sur www.l'assurance.fr. L'assurance s'écrit avec un S à la fin. À tout de suite pour de sacrées économies.
Depuis près de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion et sans engagement le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88.
Le mémorial de la Shoah, le plus grand centre d'archives en Europe, préserve et transmet les archives de la Shoah depuis plus de 70 ans. Parce que chaque document est une histoire, venez déposer vos archives personnelles concernant la Seconde Guerre mondiale en France, en Europe et en Afrique du Nord au centre de documentation du mémorial de la Shoah. Tout au long de l'année, le mémorial de la Shoah collecte des milliers de documents relatifs à la Seconde Guerre mondiale grâce à vous. Les équipes du Mémorial de la Shoah vous accueillent en particulier tous les mardis au 17 rue Geoffroy Lagny à Paris dans le 4e arrondissement. Plus de précisions au 01 42 77 44 72. 01 42 77 44 72. Le Mémorial de la Shoah, parce que chaque document est une histoire.
Vous écoutez Radio Shalom sur le 94.8 FM.
94.8 FM.
Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwartz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir David Shapira qui vient nous parler de ses deux derniers ouvrages, 16 puis 12 idées reçues sur le judaïsme, paru chez Auteurs du Monde. Bonsoir David.
Bonsoir Sandrine.
C'est un plaisir de vous retrouver parmi nous. Vous venez spécialement d'Israël ou presque?
Oui, c'est un plaisir partagé en fait, parce que je sais que vos émissions sont de grande qualité intellectuelle, historique. C'est toujours des sujets qui nous intéressent et qui nous préoccupent beaucoup.
Alors justement, vos ouvrages m'ont beaucoup intéressé, mais auparavant on va essayer de donner quelques mots de présentation pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas parmi les auditrices et les auditeurs de Radio Shalom. Vous êtes né à Neuilly-sur-Seine, où vous avez grandi avant de poursuivre vos études en Israël. En 1990, vous y avez obtenu un diplôme national d'enseignant en études rabbiniques à l'Institut Lifshitz de Jérusalem. En 1999, vous avez intégré l'Université hébraïque de Jérusalem, où vous avez étudié l'histoire juive. Et après un doctorat consacré à l'œuvre du grand rabbin Jacob Kaplan et un post-doctorat sur l'antisémitisme en France, vous avez passé une licence de droit à Jérusalem avec une spécialisation en juridiction rabbinique. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages inspirés de vos recherches. Une biographie Jacob Kaplan, un rabbin témoin du XXe siècle, paru en 2007 aux éditions Albin Michel. Et les antisémitismes français, publié en 2011 aux éditions Le Bord de l'Eau. En parallèle, vous avez mené une carrière de journaliste puis de guide. Vous résidez actuellement à Bethel en Israël et vous venez régulièrement à Paris. Un parcours impressionnant quand même.
Oui, tout est presque parfait, sauf les lieux de résidence. Malheureusement, d'accord. Je n'ai pas grandi à Neuilly-sur-Seine, mais dans un HLM à Angers-Montmorency.
Ah d'accord, alors j'ai raté cette information.
Je n'habite plus Bethel depuis quelques années, mais oui. Batiam. Mais c'est presque d'accord. pareil, sauf que l'un est près de la mer et l'autre était dans les montagnes. Voilà, mais à part ça, c'était parfait Sandrine, tout était correct. Oui, c'est un parcours avec une énorme attirance... pour l'histoire, et en particulier l'histoire juive. Mes parents étaient antiquaires, donc il y avait quand même un peu de génétique là-dedans. La recherche, en fait, tout d'abord des textes. J'ai passé 6 ans d'études à la yeshiva, où j'ai entrepris des études rabbiniques pour essayer aussi de découvrir, de comprendre nos textes. Et à l'époque je voulais être rabbin. En fait, à 18 ans, j'avais décidé d'être rabbin. Donc j'avais été rue Vauquelin, je m'étais renseigné aussi à Londres au Hebrew Union College, mais je me disais que pour être rabbin, le mieux pour étudier le pays naturellement adapté pour l'étude, c'était Israël. Et à cette époque, comme aujourd'hui, quand on veut vraiment étudier le Talmud particulièrement, eh bien, il n'y a pas mieux, je dirais, que la structure d'une yeshiva. Et donc j'ai passé 6 ans à étudier le Talmud et la loi juive, pour faire un parcours du moins étudiant, rabbinique, parce que ça me donnait aussi un cadre pour des examens, et évidemment avec un cursus pour être enseignant de Bible et de loi orale, voilà, grosso modo. Mais j'avais toujours, après ces études de yeshiva où j'ai commencé à travailler, j'avais toujours cette envie d'étudier l'histoire, ça me manquait, c'était vraiment un côté qui manquait aussi, évidemment dans les études de yeshiva, où c'est pas des études historiques du tout, tout est mélangé un petit peu. Et il a fallu attendre quelques années pour que je puisse m'inscrire au départ avec des études par correspondance que je travaillais, et puis le master pendant que je travaillais, et le doctorat pendant que j'ai travaillé, tout ça, et le post-doctorat, etc. etc. Voilà.
Alors ce qui est très intéressant dans votre parcours, c'est la complémentarité d'études rabbiniques, d'études historiques et d'études du droit rabbinique, et qui fait que par rapport à l'actualité qui est la vôtre aujourd'hui, on se dit qu'il y a quand même un bagage. Alors votre actualité, c'est quoi ? C'est la parution de 2 ouvrages, 16 idées reçues sur le judaïsme, mythes et réalités du peuple juif en 16 questions, qui a été complétée par 12 autres idées reçues sur le judaïsme. Et ces ouvrages visent à rétablir des vérités historiques face à des idées profondément ancrées dans l'inconscient collectif depuis des siècles à propos de la civilisation juive. Vous y abordez les sujets fondamentaux de l'histoire biblique et talmudique du peuple d'Israël, en vous appuyant sur des sources bibliques et talmudiques apocryphes, ainsi que sur les travaux d'historiens comme Flavius Joseph, vous déconstruisez des mythes et préjugés tenaces que l'on découvre infondés. Vous remettez en question des idées reçues telles que le monothéisme éternel, le célibat divin, l'interdiction des sacrifices humains, la sacralité du kotel, la prohibition de la prostitution ou encore la résistance héroïque de Masada. Donc, c'est quasiment 28 idées reçues. Et au total, ces mythes sont déconstruits avec des sources solides à l'appui. Ces travaux donnent naissance à des essais tout sauf politiquement corrects, mais d'une grande richesse intellectuelle et d'une lecture stimulante. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse du premier ouvrage qui a donné lieu au second ?
Bah écoutez, c'est tout simple. Et, à un certain moment de ma vie, il a fallu que je travaille. Je travaillais évidemment avant, mais j'ai eu l'opportunité pendant... mes études de droit, je me destinais à être avocat. Et quand j'ai fait ce stage d'avocat, je me suis énormément ennuyé. Je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'étais réétudié encore 2 ans pour être guide, à l'école de guide. Et puis, j'ai commencé à guider beaucoup de personnes qui sont aussi intellectuellement de haut niveau. Mais mes clients, si vous voulez, me sortaient des phrases toutes faites, des idées préconçues, des idées même stéréotypées, de tout genre. Et je me disais, mais historiquement, j'avais besoin à chaque fois de rectifier. Et puis, je me suis dit, bien, je vais un jour mettre toutes ces fausses idées par écrit, c'est-à-dire juste l'idée qui était fausse, la mettre par écrit, et c'est comme ça que j'ai fait une liste de 40. Donc là, on est arrivé à 28, il y en a encore à peu près 12 ou 13. Et un jour, le corona est arrivé, l'épidémie du coronavirus est arrivée, et j'ai été en chômage forcé, et un projet qui était celui d'écrire, un peu de développer pourquoi ces idées reçues n'étaient pas correctes d'un point de vue historique, pourquoi elle ne correspondait pas à la réalité, encore une fois, historique, et même du judaïsme. Eh bien, j'ai compris que cette épidémie allait durer longtemps. Effectivement, elle a duré longtemps, elle a duré 2 ans en Israël, avant que les touristes ne soient autorisés à revenir dans le pays. Et c'est là que j'ai pris, si vous voulez, le taureau par les cornes, pardon, et j'ai commencé à écrire sur ces idées. Je ne voulais pas dépasser 10-15 pages par idée, parce qu'il y a des livres entiers, des fois, qui méritent d'être écrits sur ces chapitres ou qui ont déjà été écrits. Et en fait, ça donnait, si vous voulez, un grand manuscrit qu'on m'a conseillé de diviser en deux. Et le premier livre traite de la période biblique, c'est-à-dire la Bible et la période talmudique, environ jusqu'au 5e siècle de notre ère. Et le second ouvrage, lui, s'attache au Moyen-Âge et à des idées contemporaines. Donc, si vous voulez, chaque livre a sa spécificité. Évidemment, ce n'est pas les mêmes sources pour chaque livre, mais tout ce que j'affirme et toutes les thèses que j'avance,